Comprendre
comment ça marche?
En fait, c'est juste un verset qu'on lit. Vous le connaissez bien. Probablement, vous êtes capable de me le dire par cœur. Si quelqu'un est en... Puis, moi, au Québec, là, je dis si quelqu'un est en Jésus-Christ. Parce que au Québec, vous savez quand on dit ça, des fois, là. En fait, il y a un gars, c'est un gars, tu sais, le gars avec des tatous, puis tout rough. Il dit, la première fois que j'entends ça, j'en revenais pas. Puis lui, il était tout le temps habitué d'entendre la version non sanctifiée. Puis là, ça dit, c'est une nouvelle... Dieu a touché son cœur juste à cause de ça, parce qu'il dit, hein, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Ouais, donc on peut lire 2 Corinthiens 5, 17. On va le lire tel quel, hein, on comprend. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Amen.
C'est-tu littéral, ça?
Ben...
Oui, je pense que oui.
Ah, on hésite, hein? C'est pour ça qu'on prend une série comme ça. C'est littéral. Mais on sent pas tout le temps que c'est littéral, puis on se regarde, hein, quoi? Vraiment? C'est pour ça qu'on prend le temps vraiment de déballer ce cadeau. Parce que ça, c'est un fait, c'est vrai, c'est littéral. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On va continuer à développer ça ensemble avec cette série sur la vie victorieuse en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va répondre à travers beaucoup de messages à la fameuse question « Qui suis-je? » C'est une grande question existentielle. Les philosophes se la sont posée pendant longtemps. Mais savez-vous que la Bible a une réponse très unique et spécifique? Lorsqu'on est un enfant de Dieu, nous avons notre identité qui est définie par Dieu lui-même, ce que lui a fait dans notre vie. On s'appelle chrétien parce que on appartient à Christ. Nous sommes un avec lui dans sa mort, sa vie, son ascension. Nous sommes dans les lieux célestes avec Christ. Il y a tout un grand pan de la vérité en Christ, vraiment, que souvent, je pense qu'on ne connaît pas très bien. Donc, on va regarder ensemble quelques éléments ensemble. Mais cette fameuse question de « qui suis-je? » Bon, comme je dis, il y a certainement une teneur philosophique. Et je dirais philosophie biblique. Parce que c'est vraiment... ça va déterminer ma vision du monde. Vous savez, le monde a quelque chose à nous dire sur qui on est. T'es un animal. T'es un être amoral. Ou tu sais... Puis Dieu nous définit aussi. Donc, c'est une question importante. La question, c'est qui définit? Est-ce que je me laisse définir par Dieu pour savoir qui je suis ou je me laisse définir par le monde? Et là, pensons pas aux pires caricatures, comme on dirait, mettons, des animaux, comme l'évolution nous dit, mais pensons plus à est-ce que je m'identifie à mon passé, à mes erreurs? Ou est-ce que je m'identifie à être une nouvelle création, comme on vient de voir là? Est-ce que je m'identifie comme quelqu'un qui, ayant avant un cœur de pierre, a maintenant un cœur de chair? Est-ce que je m'identifie comme quelqu'un ayant l'Esprit de Dieu qui me rend capable, que ma capacité ne vient pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu? Est-ce que je m'identifie à celui qui, dans sa faiblesse, peut tout par celui qui le fortifie? Ou qui a une grâce accessible à lui qui est suffisante? Autrement dit, est-ce que je me définis selon mon ancienne nature ou est-ce que j'accepte de me laisser définir par ma nouvelle identité en Jésus-Christ? Pour répondre à cette question, on va prendre plusieurs messages. Dans les premiers messages, on va voir ce que ça nous dit dans Galates 2:20, qui était vraiment un verset, comme je le disais ce matin, qui englobe la vie chrétienne, mais aussi qui nous donne notre identité. Tu sais, si je vis, c'est quoi ma vie, c'est quoi que je suis? Ça nous donne cette réponse dans Galates 2:20. Puis aussi, on va aller, pour répondre toujours à ces questions, dans d'autres messages, dans le récit même de la Genèse. Au tout début, lors du moment même de la chute, donc la création, la chute et tout ça, on va tirer leçon de ça. Donc pour l'instant, on s'en va dans Galates 2:20. Et on va regarder ensemble deux réponses bibliques de Galates 2:20 à la fameuse question « Qui suis-je? » Galates 2:20, on va le lire ensemble. J'ai beaucoup de versets à vous partager, je les ai écrits parce que ça serait trop long. Mais vous allez voir, c'est vraiment, quand je dis c'est la grande vérité du Nouveau Testament, on le voit partout, vous allez le voir par les références que je vous donne. Alors là, je parle, puis je pense pas, là, Éphésiens, Colossiens. Galates, c'est dans le Nouveau Testament, hein?
Oui, oui, oui.
OK.
C'est avant Éphésiens.
OK, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, dans mon corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. D'abord, ici, on voit la première réponse biblique de Galates 2:20 à notre identité, c'est que nous avons été crucifiés, nous avons été. C'est la libération de la crucifixion. La Bible nous dit qu'avant Christ, nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Ou pour le dire dans les mots de Colossiens, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Et donc, avant Jésus-Christ, nous étions déjà morts. Donc, c'est quoi ça veut dire que je suis crucifié avec Christ? Ça veut-tu dire comme dans Jude, deux fois mort? Non, ça ne veut pas dire ça. J'explique. Avant de connaître Jésus-Christ, nous étions morts dans le sens que... OK, le mot mort, ça veut dire séparation. Donc, j'étais séparé de Dieu. J'étais mort quant à ma relation avec Dieu. Il n'y avait pas de relation avec Dieu. Entre moi et Dieu, c'était la mort. Et pourquoi? Parce que j'étais uni à mon péché. OK? Le maître de ma vie, c'était le péché. J'avais le péché pour maître, étant séparé de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que même là, toutes les œuvres de justice que nous pourrions faire avant d'être sauvés, c'est comme un vêtement souillé. Pourquoi? Parce que nous sommes souillés de par nature et ça nous sépare de Dieu. On est identifié à notre péché, à ce que nous sommes en dehors de Jésus-Christ avant de le connaître. C'est pour ça que ça dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cette séparation, c'est ça la mort. Donc, on était sans espoir de pouvoir plaire à Dieu par nous-mêmes. C'est pour ça que les religions, ça ne pourra jamais être la solution pour le problème entre nous et Dieu. La solution, ça fallait que Dieu vienne régler le problème. Il fallait que Dieu devienne homme. Il y avait besoin de l'incarnation, la crucifixion, la résurrection, l'œuvre rédemptrice de Dieu en Jésus-Christ. C'est le seul espoir pour nous qui était séparés de Dieu. Et dans notre esprit même, regardez juste ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 19. J'ai déjà lu ce passage-là, mais c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un de non sauvé et dans son cœur. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, ça c'est ceux qui sont sans Dieu, qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est ça la vie de quelqu'un qui est mort dans ses offenses et ses péchés. On a beau l'habiller religieusement, on a beau y mettre une Bible dans les mains, on a beau l'amener à la Mecque, ouais, OK? Ça va rester quelqu'un qui est dans cette condition-là pareil. Ou il y a beau être des Hells Angels, comprenez-vous, c'est la condition humaine, peu importe comment on l'habille. OK? C'est la condition intérieure de l'être humain sans Christ. Or, le fait d'être crucifié avec Christ, ça a absolument tout changé. Et là, je vais vous donner un « mais Dieu ». Êtes-vous prêts? Éphésiens 2, 4 et 5, « mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses et nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ. » C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais Dieu, nous étions morts, mais Dieu nous a ramenés à la vie. C'est drôle que Dieu nous a ramenés à la vie en passant par la mort. Pourquoi? Notre co-crucifixion, OK? Ça dit dans Galates, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec lui. Non seulement Christ a été crucifié pour moi, mais écoutez les chrétiens, Dieu nous adresse l'évangile en disant, oui, oui, Christ est mort pour toi, ça c'est l'évangile pour les perdus, je l'ai reçu. Mais une fois qu'on est sauvé, on voit que, hey, il y avait même plus que ça là, dans le deal. Je suis mort aussi avec Christ, je suis crucifié avec lui, j'ai pris part à cette mort. Et je vous explique maintenant pourquoi c'est important. Parce qu'ayant été crucifié avec Christ, Christ ayant subi la pénalité du péché, le châtiment, la colère de Dieu contre le péché, et l'ayant pris à ma place, ça fait que Dieu, en Jésus-Christ, a brisé ce lien-là qui m'attachait au péché. La puissance du péché a été brisée. J'étais attaché au péché, mais la cause crucifixion a défait cet attachement que j'avais. Ça, c'est la première moitié. Le lien que j'avais avec le péché a été brisé. Je vous le lis dans Romains 6 et 7. Sachant que notre vieil homme a été crucifié, comme on l'a vu, j'ai été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché, ça c'est ma chair, soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. La mort avec Christ m'a libéré de l'emprise du péché sur ma vie. Ce n'est plus mon maître. Autrement dit, Christ, le dernier Adam, comme on apprend, c'est pourquoi, comme il est écrit, le premier homme Adam devint un être vivant. Le dernier Adam est venu et devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, en devenant péché pour nous, a subi la séparation à notre place pour nous ramener à Dieu. Et ça, ça a été prophétisé. Savez-vous pourquoi on dit « Ah, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes. » Pourtant, on dit « Ouais, il n'a pas fait des miracles autant qu'Élie. Il n'a pas été étudié dans quelque chose de spectaculaire comme Moïse puis la sortie d'Égypte. » Ça nous dit sur lui dans une prophétie de l'Ancien Testament dans Malachie puis qui est accomplie dans le Nouveau Testament. Ça nous parle de lui en disant « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Pourquoi il était le plus grand? Parce qu'il précédait celui qui est le plus grand de tous. Il était juste avant, puis il préparait. Et l'idée de ramener à Dieu ce qui avait été amené, là, parce que dans l'Ancien Testament, avec tout ce qu'il y avait, aussi merveilleux que tout ça était, c'était temporaire, c'était pas complet. On n'était pas réconcilié, ramené à Dieu. Il fallait que la croix arrive, puis Jean-Baptiste est juste avant la croix. C'est pour ça qu'il est le plus grand de tous les prophètes, parce que c'est lui qui a été comme ça à la toute fin de la lignée prophétique. Maintenant, le lien du péché étant brisé par Jésus qui est l'esprit vivifiant, on peut maintenant avoir la vie. On va développer ça dans le deuxième point, mais lorsqu'on croit à Jésus comme notre sauveur, Dieu nous identifie à Jésus, écoutez bien ça, à Jésus puis à son histoire. Ça veut dire que non seulement on a un nouveau futur, on dit « Ah, maintenant, Dieu, hein, je connais les projets que j'ai formés sur toi. » On dit « Hey, les chrétiens, Dieu a un avenir pour moi, puis on voit le futur. » Oui, on a un nouveau futur, mais c'est vrai qu'on a même un nouveau passé. Dieu a brisé le lien avec le passé. Maintenant, c'est plus ça le passé est passé. Le vieil homme, c'est de l'histoire passée. Le livre est fermé, puis le tombeau, c'est fini, c'est plus ça mon histoire. Maintenant, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on ne doit pas se réidentifier à notre passé, on s'identifie à ce que Dieu a achevé, a tué. Le vieil homme, il est mort. Au moment de notre salut, notre union avec l'ancien maître, le péché, a été rompue, puis c'est pour ça qu'on est libéré. L'emprise, la domination, ça c'est un mot qui est riche dans le Nouveau Testament, le mot grec « katargeo ». L'idée, là, ça dit, dans notre traduction en Louis II, ça dit « réduit à l'impuissance ». Et l'idée, là, c'est que sa puissance de domination a été brisée. C'est plus lui le boss, c'est plus lui qui colle les shots, le péché. Ah, c'est sûr qu'il y a un attrait encore, mais c'est plus la puissance dominante de nos vies. Le vieil homme étant mort, il n'est plus notre identité. Le passé est passé. Le passé est passé. On a écouté Romains 11. 11 à 13. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Notre rôle, notre foi, c'est de reconnaître les faits, d'avoir été crucifié avec Christ, d'être maintenant vivant avec lui. Et dans le fond, c'est d'embrasser cette vérité, se l'approprier. Je vous donne une illustration, souvent une image vaut mille mots. Si par un heureux événement, quelqu'un vous dit « Savais-tu que ma tante Armande, qui est décédée il n'y a pas longtemps, elle avait beaucoup d'argent, puis tu viens d'hériter $1 million. » Ça a été déposé dans ton compte. Ah, tu restes pas pire. Je pense que j'aurais pas juste un petit char deux places. Puis ça, je pense qu'on va pouvoir m'acheter quelque chose de plus grand. Puis il va moins m'inquiéter du prix de l'essence, n'est-ce pas? Mais si c'est déposé à votre compte de banque, mais que, mettons, c'est le temps de faire vos finances, tout ça, puis vous écrivez dans votre carnet de banque 100$. Okay, vous avez 1 000 000 dans le compte de banque, mais vous écrivez que vous avez seulement 100$ dans votre carnet de chèque. Savez-vous quoi? Ça ne serait pas reconnaître la vérité, les faits. En réalité, vous avez 1 000 000. T'as beau écrire 100$, là, ça ne change pas que dans le compte, c'est combien que? Il y a 1 000 000 $. Donc, le fait d'écrire 1 000 000 $, c'est pas de créer la richesse puis se faire des accroire. Non, c'est reconnaître la vérité telle qu'elle. Fait que de voir, pour faire un parallèle de même, de dire que je suis mort au péché puis vivant pour Dieu, c'est pas de se faire des accroire, c'est d'accepter la vérité telle qu'elle, puis quoi que ce soit d'autre, c'est vivre en dessous de ce que Dieu a fait de moi. C'est comme me dire que j'ai 100$ alors que j'ai 1 000 000 dans le compte de banque. Je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Cette cassure-là a été faite. Et rappelez-vous que notre vieil homme est mort, mais ça parle du corps du péché, notre chair, ou notre nature adamique, a continué d'habiter en nous autres. Je veux dire, on a encore une nature pécheresse, mais même si ça continue d'habiter en nous, là, je veux dire, on a encore, on peut avoir une volonté qui nous est propre, des pensées qui sont en nous, puis des émotions qui sont pas, ok? Ben, il cherche encore à essayer de nous influencer, mais la réponse est de dire, c'est plus toi mon maître, c'est plus à ça que j'ai à répondre. Même, pourquoi? Parce que maintenant, ce lien-là a été fait, a été brisé. Donc, ils cherchent à nous diriger, mais ils n'ont plus le droit de le faire. La seigneurie, l'emprise du péché, la relation de pouvoir, d'autorité est défaite. J'ai plus rien, j'ai plus de compte à rendre au péché. C'est plus mon maître. Comprenez-vous? Et si seulement on décide de donner ce pouvoir au péché, là, il va le prendre. Si je m'identifie à mon péché, ah, moi, j'ai tout le temps été en train de dire, c'est toi mon maître. Mais si je dis non, c'est plus ça que je suis. Je refuse son autorité. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est vraiment le fait de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Pas comme je les sens, ou je les ai toujours senties, mais comme elles le sont en Jésus-Christ. Et ça, c'est par la foi, puis on ne sent pas tout le temps, mais quand on le croit, puis qu'on vit la lumière de ça, on sent les résultats. On l'a vu ce matin, on ne se laisse pas diriger par nos émotions, comment je me sens. On sent des fois esclave au péché. On sent des fois que le péché a domination dans nos vies, parce que c'est plus fort que nous. Mais ça n'empêche pas les faits que si on est un enfant de Dieu, cette cassure-là a été faite. Ce lien-là qui nous attachait au péché, sa domination, elle est brisée. Donc ça, c'est la première moitié. Deuxième moitié de ce qu'on voit aujourd'hui avec Galates. Ça dit dans Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc non seulement il y a cette partie-là dans la première partie d'être crucifié avec Christ, que c'est la libération de la crucifixion, mais en plus, ici, avec... Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la provision de la résurrection. C'est pas comme si, ok, Dieu a brisé la puissance du péché, puis maintenant organise-toi tout seul. Non, maintenant j'ai une nouvelle autorité dans ma vie. Dieu a pourvu. Donc Dieu a mis à mort le vieil homme afin de créer un homme nouveau en Jésus-Christ. Non seulement il m'a enlevé mon cœur de pierre, mais il m'a donné un cœur de chair. Et donc la co-crucifixion avec Christ, c'est la séparation avec le passé, le vieil homme, tandis que la co-résurrection, c'est mon association avec sa nouvelle vie. Écoutez Colossiens 3, 9 et 10 à ce sujet. « Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Ça va avec ce qu'on a vu dès le début, on est une nouvelle création en Jésus-Christ. La régénération, okay, c'est ça que ça veut dire, l'idée de régénérer, né de nouveau, recréer, fait en sorte que mon esprit maintenant est connecté, est associé à Dieu. Non seulement donc avec la crucifixion, Dieu a défait le lien avec le péché, mais avec la résurrection, maintenant je suis en lien avec Dieu. Avant j'étais mort, maintenant je suis vivant. Maintenant, l'esprit de Dieu communique directement à mon esprit. Et ça, c'est différent de tout le monde sur la planète Terre, qui n'ont pas encore Jésus comme leur sauveur. C'est pour ça qu'on n'est pas une religion, on n'est pas une espèce de version améliorée de telle religion. Non, c'est quelque chose de surnaturel, c'est une œuvre divine du Dieu vivant qui donne la vie à ce qui est mort.
Amen.
Nous avons la pensée de Christ. C'est ça, être un enfant de Dieu par la grâce de Dieu. Écoutez à ce sujet-là, 1 Corinthiens 15, 45 à 47. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. On est né, on est d'abord mort dans nos offenses et nos péchés, mais lorsqu'on est de nouveau, ça vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Donc Jésus est venu rétablir toute chose. Jésus-Christ, le dernier Adam, est venu établir une nouvelle race, si vous voulez, une nouvelle humanité née de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu, la semence de vie de Dieu en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Puis on lit aussi là-dessus, parce que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Maintenant, notre ancienne relation avec le péché, ayant été brisé, une nouvelle relation ayant été établie, ok, c'est pour ça que maintenant on peut adorer Dieu en esprit puis en vérité. Il n'y avait pas ça avant. Avant, notre esprit était mort, mais maintenant on est joint à Dieu par l'esprit. L'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a un nouveau maître. Même plus que ça, on a un nouvel amour, une nouvelle relation. Et je veux prendre le temps d'expliquer ça. Juste vous donner un verset, après je vais vous l'expliquer. De même, frère, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Manquez pas la bénédiction ici, là. Notre ancien maître, le péché, n'était pas personnel, c'est une force, une puissance destructrice dans nos vies. Pas, il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais notre nouveau maître, Jésus-Christ, est une personne, c'est le bon berger, l'esprit du Dieu vivant. C'est pas juste une liste de choses à faire ou à pas faire, c'est pas juste un livre froid avec des pages qu'on... Non, c'est le bon berger dont les brebis entendent la voix. Et évidemment qu'il y a la portion parole, mais c'est pas juste comme un livre qu'on lit. Vous savez, quand on est enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu nous dirige dans toutes les Écritures, puis les mots sortent de la page, puis ça vient pour nous autres, puis on dit « Wow! Merci Seigneur, tu consoles mon cœur! » Puis pour ça, quand on entend la parole, soit dans des messages, soit qu'on la lit, soit dans des chants, ça vient nous chercher, ça s'applique à nos cœurs. Pourquoi? Parce que c'est ça, cette relation de notre nouveau maître. On entend sa voix. Et notre liberté nous est donnée par le libérateur lui-même. Celui qui brise toute entrave. C'est pas un simple corps de doctrine, des œuvres que nous ferions. Mais de la même façon qu'on a été sauvés par la grâce au moyen de la foi, nous marchons aussi de la même manière par la grâce au moyen de la foi. On n'est pas des moralistes qui essaie de suivre une série de règles sans vie. Malgré que la parole de Dieu est bonne et tout ça, on n'est pas contre la parole de Dieu, mais ou la loi de Dieu, mais on prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. C'est quelque chose qui est vivant, qui est du cœur directement, où est-ce que vraiment ça fait notre plaisir, la loi de Dieu. C'est pas quelque chose qui nous est imposé et qu'il faut qu'on fasse. Et juste là-dessus, lorsque... J'aime tellement ce verset-là. C'est tellement court. Des fois, les versets courts sont tellement puissants. Dans Philippiens 1, 21, vous savez ce que ça dit? Christ est ma vie. Et mourir m'est un gain. Christ est ma vie. Ça veut dire quoi? La vie chrétienne, là, c'est Jésus-Christ. La vie chrétienne, c'est pas des choses à faire. C'est une personne qui vit en nous. Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est ça, la vie chrétienne. C'est Christ qui vit en moi. Évidemment, ça va donner toutes sortes de fruits. Mais on a fait l'erreur comme chrétien souvent de mettre la liste comme étant la vie chrétienne alors que Christ est la vie chrétienne et ça fait faire une série de choses. On peut mettre une liste, ça nous tente des choses qu'on fait, mais on passe à côté du point. C'est celui qui nous donne des choses auquel il prend plaisir, puis auquel nous-mêmes aussi on prend plaisir. Et quand Jésus nous dit, des fois on dit ça, « Ah, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Connaissez ça en Jean 15? Vous savez quoi, c'est littéral, ça? Moi, je me dis, « Ben là, quand même, je suis capable de donner des traités, puis je peux donner ma dîme. Hein, j'ai-tu besoin d'avoir une espèce de super power qui vient du ciel? » L'idée, c'est que tu peux rien faire de portée éternelle, rien faire en moi, en dehors de moi. Le reste, on va tout le faire par nos propres forces, ça va être des œuvres mortes. Et ça, on peut tellement tomber dans le piège. On sait tout quoi faire comme chrétien. On est sur une pilote automatique, puis c'est toutes nos œuvres, ça ne porte pas de fruits. Moi, j'ai marché là-dedans, been there, done that, j'ai même un t-shirt, ben, je pense que je vais le jeter dans les poubelles. Et je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Je suis en blanc. Blanc, plus blanc que neige. Non, ça n'a pas rapport. Là, je délire, là. Rechercher. OK, là, je vais vous amener quelque chose d'important par rapport à ça, Christ, notre vie, là. Comme chrétien qui aime le Seigneur, le piège dans lequel on peut tomber, c'est rechercher quelque chose de bon, comme la sainteté. Est-ce que c'est dans la Bible, ça, la sainteté, puis vous serez saints car je suis saint? La liberté. On ne veut pas être esclave du péché. Christ, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. OK? Savez-vous quoi, il y a un piège là-dedans? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je peux rechercher des choses aussi bonnes que la sainteté et la liberté et vivre dans un désert spirituel et vivre d'échec en échec en échec. Comment ça peut se faire? Parce que je recherche quelque chose et je ne recherche pas quelqu'un. Si je cherche Jésus qui est ma sainteté, qui est ma liberté, je le trouve lui, je trouve toute la sainteté dont j'ai besoin, je le trouve lui, je trouve toute la liberté dont j'ai besoin, et c'est pas moi qui en ai l'origine, c'est lui. Donc je cherche pas une chose à faire, je cherche une personne qui fait. La vie chrétienne, c'est Christ, et mon accès à Christ, c'est par la foi. La foi, c'est pas une œuvre, c'est la dépendance en celui qui travaille. Je m'attache à lui par la foi. Il est ma provision. En lui, j'ai la vie. Et c'est lui qui porte du fruit. Vous méditerez là-dessus dans Jean 15. C'est ça l'idée. C'est notre attachement à lui. C'est lui qu'on cherche et non pas des choses à faire ou à ne pas faire. Aussi bonne et noble plus tel être, on peut passer à côté de la personne qui en est la source. Maintenant, Jésus-Christ, c'est l'ultime provision de Dieu pour le salut. Et pour la sanctification, on prêche le salut, on dit il n'y a pas de salut en aucun autre et tout ça. Pour les saints aussi, il n'y a pas de sanctification en aucun autre. Ou en quoi que ce soit d'autre, dans les bonnes formules chrétiennes ou tout ça. Non, la sanctification, la sainteté est en lui. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une question d'imitation, c'est une question de participation. La Bible nous dit que nous sommes participants de la nature divine. Pas qu'on est devenus des dieux, mais que étant co-crucifié avec Christ puis ressuscité avec lui, on participe à cette œuvre de rédemption. On en est partie intégrante par la grâce de Dieu. Et ça, ça porte du fruit dans la vie de ceux qui ont cette grâce. Ça commence par la foi, ça continue par la foi et ça porte du fruit à la gloire de Dieu. Là, maintenant, je veux terminer avec quelque chose où est-ce que... Tu sais, Paul faisait ça des fois, là. Il prend comme une espèce de question imaginaire ou hypothétique. Peut-être qu'il y en a ici qui se demande, « Ouais, c'est bien beau ce qu'on dit là, là. Mais ça ressemble pas bien ben à ma vie, ça, me semble. Ça me semble que moi, je suis pas dans la victoire puis la vie. Puis ça me semble qu'il y a pas mal plus de morts que j'aimerais l'admettre. » C'est quoi le problème? Le problème... Bon, tu sais, c'est pas la provision de Dieu. Je veux dire, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché de la mort. Si je marche par l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Mais savez-vous, dans notre expérience chrétienne, quand on arrive à ce point-là, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. On tombe dans le piège de Romains 7. Moi, moi, moi. Je veux. Vous comptez les « je » dans Romains 7, là. Je veux faire ci, je veux faire ça. Puis finalement, au moins, il arrive au bon point. Il dit « misérable que je suis ». Mais au moins, il dit « qui ». Il dit pas « quoi ». Il dit pas « quelle formule ». « Qui me délivrera de ce corps de mort ». Puis il rend gloire à Dieu que c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout est une question de qui est-ce que je cherche, qu'est-ce que je cherche. Une question de volonté, à qui je décide aussi d'obéir, à qui je veux obéir, à mon ancien maître ou à mon nouveau maître? D'abord, est-ce que je le reconnais comme mon nouveau maître ou je reconnais encore juste le péché comme étant mon maître? Et là, c'est toute l'importance de notre identité, à qui suis-je? C'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'on obéit à celui à qui on s'identifie. On voit ça dans notre culture en ce moment. Ben, puis c'est de toute époque, là. La culture, c'est quoi que ça fait? Il y a des modèles. Dans notre culture, c'est le sport, le showbiz, OK? Bon. Des modèles que les gens imitent. Ils veulent s'identifier à ça, n'est-ce pas? Ah, telle vedette, telle ci, puis telle ça. Pour eux, c'est leur identité, c'est ça qui dicte ce qu'ils vont faire, hein? La vedette est comme ça, le statut, même qu'on voit, mais les gens, ils marchent de même, tu sais. Ils n'ont pas appris ça en marchant quand il y a comme un... Non, c'est parce qu'ils ont un modèle, puis le gars, quand il marche de même, tu sais. Puis là, t'attends... C'est leur identité, puis ils marchent littéralement comme ça, OK? Non!
Mais c'est une bonne
idée. C'est un tir, moi, c'est ça que j'allais dire. Je veux dire, quelle sorte de prédication? Une chance, c'est, dans l'enregistrement, ça paraît pas, là, mais. Mais c'est pour amener un point! Ces gens-là, c'est ça leur identité, puis c'est, ça porte le fruit dans leur vie. Mais ça tient aussi pour nous, comme chrétiens. Si mon identité, c'est Christ, c'est ce que lui a fait, ben, ça va dicter comment je vais me conduire, comment je vais marcher. OK, vous savez, là, on a tout ce problème-là. Quand ça dit dans Jacques, c'est très clair et sans équivoque. Excusez, ça dit dans Jacques 4.1. D'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? On a ces passions-là pour tout ça. On a tous ces mêmes passions. Dans toutes des passions, mais même, c'est pas toutes les mêmes. Et la question, c'est est-ce que je cède à ces passions? Est-ce qu'elles ont l'autorité dans ma vie pour me dire quoi faire? Si c'est là-dessus que je m'y lève, ah, moi j'ai tout le temps été quelqu'un qui pogne les nerfs comme rien. Ça, c'est un statement, c'est une déclaration d'identité. J'ai toujours été comme ça, c'est ce que je suis. Ouais, c'est ça. Ça, c'est m'identifier à mon ancien maître. Ouais. C'est pas vrai si je suis un enfant de Dieu. Amen. Je peux dire, ah oui, j'ai des luttes avec ça, mais c'est-tu quoi?
C'est plus moi.
C'est plus moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen, frère, t'as compris? En tout cas, oui, lui, il l'exprime. Donc, c'est pas lui qui a l'autorité de me dire quoi faire ou pas faire. C'est pour ça que c'est tellement important, l'identité. Parce que si je vois que ce péché est quelque chose d'étranger à moi, ben, qu'est-ce qu'il y aura à faire dans ma vie à me dire quoi faire? Quelqu'un arrive chez vous, là, avec ses grosses bottes, là, vous l'avez jamais vu, là, puis dit il commence à coller les chats chez vous. Je dis, tu fais là, toi, je te connais pas. Mais le péché, c'est ça dans une vie. C'est un étranger qui vient chez nous avec ses grosses bottes, puis qui n'a pas d'affaire là. Puis, je ne sais pas quoi faire, là. Envoyez Jésus pour se débarrasser de lui. Parce que vous, peut-être que vous allez le trouver un peu impressionnant. Mais j'avais déjà entendu ça. Une petite fille, tu sais, des fois, la foi enfantine. Elle dit, quand le péché cogne à ma porte pour essayer de venir faire du trouble, je demande à Jésus d'aller répondre pour s'occuper de lui.
Nice.
Puis effectivement, tu sais, c'est simple, mais c'est ça. OK, je vais amener ça à ce point central, parce que je suis vers la fin, mais la question du focus. Je termine avec ça. C'est un peu allégorique ce que je dis, là. Je genre de termine avec ça, là. Je tire vers la fin avec ça. Vous savez que la Bible nous parle de chrétiens charnel. Il dit, Paul, il dit, j'ai pas pu vous parler corinthien comme à des hommes spirituels. Mais je vous ai parlé comme à des chrétiens charnels. Pourquoi? Les chrétiens à Corinthe, ils se laissaient diriger par leur ancien maître. Puis là, à cause de ça, ils étaient caractérisés par cette chair qui laissait dominer dans leur vie. OK? Mais l'homme spirituel décide consciemment, fait l'effort conscient de vivre selon ce que Dieu a fait. Il ne se laisse pas aller. Laisser aller automatiquement comme chrétien, ça va être la tendance de la chair, un d'un bord, l'autre de l'autre. Mais comme il y a un effort, l'effort de la foi, c'est de dire, OK, Ça, c'est plus ce que je suis. L'homme spirituel décide de vivre selon ce que Dieu a fait de lui et se laisser diriger par ce que Dieu a fait dans sa vie et l'Esprit qu'il conduit dans toute la vérité puis qu'il l'amène toujours. L'Esprit nous ramène toujours à ce que nous sommes en Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ est la victoire. Vraiment, c'est une question de focus. On dit, ah, Jésus-Christ est la victoire. Pourquoi j'ai pas la victoire? Parce que tu regardes à soit tes problèmes, puis t'es pris là-dedans, puis t'es tout embourbé, ou tu regardes à quelque chose de bon, mais tu regardes pas à celui qui est bon. Toute une question de focus. Puis il n'y a rien qui doit être l'objet de notre attention à part que de Christ, qui est notre vie, notre paix, notre victoire, notre tout en tous. Jésus-Christ est la victoire, il est la vie victorieuse en personne. Lorsqu'on accède à sa provision, lui qui a remporté la victoire sur tous ses ennemis, on marche dans cette victoire. Puis la bonne nouvelle pour les saints, pour les enfants de Dieu, on a été recréés pour cela. Écoutez ce que ça dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Donc en lui, Dieu a toutes ces choses-là qu'il a préparées d'avance. Donc la vie chrétienne, c'est pas supposé être une vie de lutte. On va toucher à ça la semaine prochaine. Mais la vie chrétienne, c'est pas supposé être une vie de lutte où est-ce qu'on est habitué à la défaite puis surpris par la victoire. Mais c'est une vie où est-ce que, comme avec un avion, on n'est pas appelé à essayer de se battre contre la gravité. Vous essayerez ça, mais si vous essayez ça en vous levant le matin, vous dites avec quelqu'un de fatigué le soir. Essayez de vaincre la gravité en vous levant un beau matin. Ça va être dur, là. Essayez toujours de sauter ou je sais pas trop, là, tu sais. La gravité nous ramène toujours vers le bas. Hein? La loi du péché puis de la mort, ça me ramène tout le temps vers le bas. La solution, c'est pas, ah, mais là, à matin, je suis vraiment sincère, je vais vraiment vaincre la gravité. Je pense que je vais marcher sur les dents. On va pas essayer ça, on va pas me casser le cou. Comprenez-vous? Et on se dirait, ben voyons, tu viens de signer quasiment ton arrêt de mort, mais tu vas mourir de fatigue, essayer de vaincre la gravité. Ah, mais si tu rentres dans un avion, par exemple, tu n'auras même pas d'effort à faire. Faut que tu dises consciemment que tu dis, OK, je m'en vais dans l'avion, tout ça. Et là, en entrant dans l'avion, il y a une loi supérieure, la loi de l'esprit de vie m'affranchit. La loi de l'aérodynamique va m'affranchir de la gravité. Moi, tout ce que j'ai à faire, en passant dans l'avion, ça sert à rien d'essayer de battre des ailes, là, ça va pas voler plus vite. Là. T'as juste à être dans l'avion, puis elle va t'emporter. En Christ, c'est vivre à la lumière de ce que Dieu a déjà fait. Tu restes, qu'on sait ça, demeurer en lui. Et là, dans cette c'est ça l'effort de la foi. OK, moi là, si je veux un matin vaincre la loi de la gravité, là, j'ai juste à aller dans l'avion. Ça veut dire quoi? J'ai juste à reconnaître que je suis mort au péché, vivant pour Dieu. J'ai juste à reconnaître que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Le péché, le pouvoir a été brisé. Maintenant, je peux vivre librement parce que Dieu m'a libéré. Amen. Puis c'est pourquoi, des fois, on ne va pas toujours le sentir. On ne va pas tout le temps avoir le cœur à ça, mais ça ne change pas les faits. Puis on ne vit pas selon nos émotions, comment on se sent cette journée-là. On se rattache aux faits. Les faits de l'Évangile aux saints. Et je disais tantôt, Christ est ma vie. Quel beau verset, simple, mais tellement fort. On va considérer la semaine prochaine Christ qui vit en moi. C'est quoi que ça veut dire tout ça? Cette loi supérieure qui conquiert celle qui est dans nos membres. Et oui, on va voir Dieu nous ayant rendu participants de sa nature divine. On peut vivre cette vie abondante de joie. Si Jésus a dit qu'il est venu de la donner, pensez-vous qu'on peut l'avoir? En fait, on l'a déjà. Mais la question, est-ce que je l'accepte par la foi? Tiens, je vais ouvrir aux questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des questions par rapport à ce qu'on a vu? Une question, quelque chose? Oui?
Pourrais-tu juste rappeler, tu t'as donné une définition de la foi, c'est dépendance en celui...
OK. La foi, ce n'est pas une œuvre, c'est une dépendance en celui qui œuvre. Ça ne vient pas de moi. Faith is not a work, it's dependence on the worker. Ça se dit mieux en anglais.
C'est juste le mot.
Amen. OK, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais prier. On te remercie, Seigneur, de ce que on voit dans ta parole des vérités grandes et précieuses. Et que, Seigneur, tu nous as donné pour qu'on vive pleinement la vie que tu nous as donnée en Christ. Et Seigneur, la question souvent, c'est simplement, est-ce qu'on le voit? Et ces choses-là ne se voient pas juste avec plein de connaissances mentales, elles se voient par la foi. Un enfant peut les voir, quelqu'un de simple peut les voir, mais malheureusement, des fois, quelqu'un de très intelligent peut en être aveuglé. Parce que Seigneur, c'est par la foi. Donc, Seigneur, protège nos raisonnements, nos pensées à nous de venir encombrer et de nous empêcher de voir cette simplicité qui est en Christ. Et Seigneur, merci qu'on peut voir ces choses ensemble, c'est précieux. Je vois que c'est vraiment toi qui as dirigé. Et on te remercie, on te loue pour ça. Au nom de Jésus. Amen. Hein, je vous donne